efface les interférences et on commence à raisonner calmement. Hein. Donc moi ce que je voulais dire là, c'est que visiblement ce qui est en cause, ce n'est pas le micro. Ce n'est pas le micro, ce serait la prise. Stop.
Et oui, c'est
bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous êtes en direct sur la clé des ondes. Donc Achaïra est parti. Achaïra du 25 août 2011. On ne se trompe pas d'année. Et donc, eh bien, dans le studio, beaucoup de monde pour cette, je ne sais plus combien, tième émission d'Achaïra. Et donc, de quoi va-t-on parler, vous parler ce soir? Qui commence? Qui se lance?
Bon, ben c'est moi. Bonjour, c'est Fernando, un vieux de la clé des ondes qui revient après 15 ans. Voilà, et je reviens donc avec plaisir, puisque
Achaïra.
Oui, c'est quand même ma famille. Et donc, voilà.
Et tu nous parleras...
Je parlerai d'une initiative qu'avec quelques-uns on vient de faire. On vient de créer une maison d'édition. On va sortir une revue artistique. Et aussi parler de mon dernier recueil. Voilà.
Ok, merci. Mais voilà, donc, 21h à 23h. Après...
Moi, c'est Christophe. Donc, nous allons intervenir sur l'économie, la situation actuelle en France, en Europe et dans le monde. Peut-être plus spécifiquement en Chine et aux États-Unis. On va faire un petit topo en toute modestie pour la situation actuelle économique. On va essayer d'être clair, mais voilà. mais
on n'est absolument pas, on n'est pas du tout économiste, ni étudiant en économie, mais citoyen intéressé et impliqué dans ce qui se passe.
Je les interromps parce que je vous demande d'être très indulgent envers eux parce qu'ils ont l'air vraiment stressés. Donc,
Soyez indulgents avec nous.
j'en profite deux secondes. Est-ce que André, tu es au téléphone?
Oui,
ah, d'accord. Tu nous entends? D'accord. Bon, maintenant, on continue le tour du studio.
Oui.
Avec.
Alors, bonsoir, moi, c'est Laura. Je vais donc faire un témoignage sur mon expérience avec des femmes des communautés Aymara de la province de Sorata, en Bolivie.
Ok, merci. À la technique, donc voilà, c'est pour ça que c'est moyen, c'est sûrement moyen, je ne sais pas si vous avez vu tout le monde. Donc c'était Philippe, et je ferai la suite de la chronique raisonnable de la dernière fois. Et donc nous avons André au téléphone.
Oui.
Eh bien, je pense que le micro est à toi. Est à
bon.
Toi.
Est à... Je vous salue tous, j'ai l'impression que vous êtes nombreux. Je voulais vous parler ce soir d'un bouquin de Robert Mouchembled. Ça s'intitule « Histoire de la violence au seuil » et ça a été édité en 2008. D'emblée, il nous est dit que de la fin du Moyen-Âge à nos jours, c'est le sous-titre de l'ouvrage, la violence physique et la brutalité des rapports humains suivent une trajectoire déclinante dans toute l'Europe de l'Ouest. Pour réfléchir à ce qu'a pu être la violence à partir du Moyen-Âge, il faut savoir que selon notre auteur, l'homicide était à l'époque un acte plutôt banal. Si l'acte meurtrier concernait peu les femmes, environ 10%, c'était surtout le cas des jeunes mâles dans la tranche d'âge moyenne de 20 à 30 ans. J'ai d'ailleurs intitulé cette chronique « La violence des jeunes mâles ». Donc cette période où la jeunesse éprouvait les plus grandes difficultés d'insertion dans la société, essentiellement quant à la possibilité de se marier et de s'installer. Si l'analyse que fait Robert Mouchembled d'une certaine forme de violence à travers le temps ne prend que peu en compte le phénomène de la guerre, une plus grande place s'est faite aux grandes révoltes sociales. Le rôle des jeunes mâles, écrit Mouchembled, dans les soulèvements du passé, mériterait des analyses plus poussées. en particulier lors des grandes insurrections paysannes françaises. Et puis, par ailleurs, il note que le plaisir de l'action est plus important que la victoire. Le potentiel de violence, le caractère agressif des jeunes hommes, pouvant se transformer en contestation sociale, il s'agissait alors de canaliser cette violence, de l'inhiber par différents moyens, en particulier en prenant en compte les confréries de jeunesse, les bandes de jeunes, comme nous dirions aujourd'hui. Ce, en leur donnant des moyens d'expression lors des fêtes, en les subventionnant. Paradoxalement, à l'époque, ce sont les villes qui semblent les plus sûres pour la tranquillité des habitants. Tout y est organisé à cet effet. Sont rejetés à l'extérieur des remparts tous les fauteurs de troubles, étrangers, prostituées, condamnés, et aussi les jeunes qui ne respectent pas les règles de la paix sociale. Car à l'intérieur des murs, de véritables techniques d'apaisement de la violence sont instaurées par des amendes, des contrats de paix devant les échevins, des bannissements, etc. Mais, rejetés hors des villes, les bannis vont constituer un danger en s'installant sur les grands chemins pour rançonner les passants. Problème qui sera alors pris en charge par l'État central, qui se renforce à cette période, au détriment des cités, mais aussi avec l'accord des édiles et des hommes bien en place qui verront leur avantage. État central qui sait que toute puissance a besoin d'un minimum de consensus ou d'adhésion aux théories et aux pratiques qu'elle veut faire reconnaître. Pour mieux considérer le peu de prix de la vie d'alors, nous rappellerons qu'il fut un temps où un enfant sur deux n'atteignait pas l'âge de 20 ans, et que ceux qui y arrivaient ne dépassaient souvent pas la quarantaine. Les chances de vie, de longue vie, étaient hasardeuses. La vie ne valait pas grand-chose, donc encore moins le prix de la vie. D'après notre auteur, la diminution des actes meurtriers aurait son explication dans un changement de la mentalité masculine, en particulier quant à la notion de l'honneur, mais aussi dans l'apaisement des relations humaines, ainsi que le décrit Norbert Elias dans sa « Civilisation des mœurs ». De même que l'action judiciaire à l'intérieur des cités se révèle un frein à la violence. La violence, vis en latin, force et vigueur, aurait ainsi avec le temps été mieux maîtrisée par la société, puis réorientée vers des activités légales. La guerre, qui était toujours juste, les expéditions coloniales outre-mer, le sport, etc. Il s'agissait de contrôler un potentiel biologique et une éthique masculine, disons machiste, focalisé sur le sperme et le sang. Puis au XVIe siècle s'annonce ce que l'auteur nomme une révolution judiciaire quand le pouvoir central s'arroge le monopole des mises à mort et en fait un étalage théâtral sur la place publique. C'est le droit de tuer légalement. Contrebalançant son analyse d'une décroissance de la violence, Robert Muchembled note que le dernier tiers du XXe siècle marque un inquiétant renversement de tendance. La société en crise ne maîtrise plus l'économie, donc le chômage, et ainsi ne peut, moins que jamais, faire une place satisfaisante aux jeunes. Les vieux, vivant plus longtemps que par le passé, conservent autant qu'ils le peuvent le contrôle économique sur cette société et aussi un contrôle sur la possession des femmes. Ce renversement de tendance peut-il s'illustrer aujourd'hui par la flambée de violence dans le Royaume-Uni au début de ce mois d'août 2011, après la mort d'un jeune tué par la police. De nombreux pillages, des incendies de magasins et de véhicules divers lors de plusieurs nuits consécutives à Tottenham et dans d'autres banlieues anglaises font la une des journaux. On notera que ces émeutes sont le fait de jeunes gens dans les quartiers où règnent misère et chômage, jeunes gens laissés pour compte de la société de consommation et bloqués dans leur ascension sociale. On notera pourtant que ces violences débouchent rarement sur des homicides directs. Les morts sont toujours involontaires. Ceci dit, cette analyse historique de la violence par Robert Muchembled met au jour un aspect qui n'a peut-être pas été suffisamment pris en compte dans les recherches plus larges des mouvements sociaux. C'est-à-dire, quant au pouvoir entraînant de la jeunesse à faire bouger le monde quand elle se déchaîne, quand elle se met en mouvement collectivement. Irions-nous jusqu'à dire que la jeunesse est un des principaux sujets de l'histoire, un acteur qui peut emporter à sa suite la plus large tranche de la société civile. Bakounine, quelque part, et alors là je vous demande d'aller chercher, ne mettait-il pas en avant cette disponibilité de la jeunesse? Qui me dira en quel endroit de son œuvre? D'une façon plus générale, l'auteur se pose la question de l'origine de la violence et du goût de la destruction, autrement dit, de la pulsion de mort, aspect qui serait propre de l'homme et pas celui des animaux. Cette forme de violence serait-elle un acquis culturel ou un caractère inné, biologique? L'humain rechercherait-il à retourner au néant d'où il vient? Il n'empêche, pour en revenir à notre livre, je le trouve très mal construit, avec des répétitions à n'en plus finir, on a l'impression que l'auteur a mis bout à bout des interventions diverses s'adressant à des publics divers et que, quand il a composé son bouquin, il n'a pas refondu, reclassé par thème ses recherches. Il se répète comme s'il craignait d'être mal compris. Mais attention, que cela ne vous décourage pas de le lire. Et si vous voulez relire cette chronique ou la réécouter, tapez sur Cercle Libertaire JB33 sur votre ordinateur. Allez, la bonne vie à vous tous.
Allez, merci André. On va lire sûrement cet ouvrage, malgré les critiques formelles que tu en as faites. Allez, un petit morceau de musique en douceur.
Okay.
Allez.
Dans le rétro, les années 80, la peur dans le métro, à 20, rien que ça bougeait en bande, l'esprit vandale en espérant se blinder de compte en banque, une lame pour tout ce qui est vendable, rack de cuir et le dernier Walkman, on n'était pas plus serein, il y avait plus de seringues, les mêmes coups sur un, des embrouilles à 12 sur 1, ou dans un cul-de-sac à plus de 5, 30 ans de désordre, qu'on se bouche les oreilles quand les vérités sortent. Nos enfants ne sont pas pires qu'avant, comme leurs aînés ils ont connu les mêmes bâtiments. La perte de vue, dure pour un fils quand on tape son père se tue. Le mal se perpétue avec un frère qui a les diplômes et pas de taf, donc y a plus d'études. Alors on cherche des thunes, la BAC persécute, nos gosses on s'en occupe. Nos mères nous ont élevés sans aide aucune et personne s'en préoccupe. Si ce n'est quand ils grandissent les gueufs au cul que les juges inculpent. Quand les tasers électrocutent on s'avoue pas vaincu. J'ai une gueule m'écrabe, mon rap écrade comme nos russes dégradent. Grave, quand des gars braves et des petits bicraves, ils rêvent de kebra. Ça pense qu'à tes gras, rien dans la tête mais dessus le casque intégral. La cabine, la sécurité est sociale. L'insécurité est prétexte facile pour réprimer. Contexte docile pour faire passer. Amendement, loi et décret. Ici, une atmosphère tendue, voilà ce qu'il fait. L'insécurité dont il parle, la porte ouverte à tout. Quand en campagne ils partent, la scène un peu partout. Mais on récolte ce qu'on craint quand on crée la psychose. La jeunesse immigrée constamment mis en cause. L'insécurité c'est le chômage, la précarité, le manque d'argent, le quotidien et ses difficultés. C'est l'absence de papier, d'abri et de vêtements. Comment ne pas approuver l'action de droit au logement? Partisan de l'action directe, de la violence comme dernier recours. Quand le pragmatisme s'apparente plus à une branlette, camouflée sous les traits d'un beau discours. Ils vont sûrement parler de voitures cramées, de jets de pierre face aux gardiens de la paix. Moi je te parlerai de familles qui vivent sous le seuil de pauvreté, et d'enfants qui en France ont du mal à s'alimenter. De détresse sociale, de misère, de discrimination à l'embauche. Quand l'égalité dans ce pays n'est qu'au stade de l'ébauche. L'insécurité, ce sont ces logements insalubres. Ces incendies qui se déclarent dans des appartements lugubres. On n'est pas stupide, on sait qu'à pire ailleurs. Mais désolé, nous on se place du côté des tirailleurs. Enfant de l'immigration, je n'apprends pas que la France m'aime. Malgré la haine, on va se battre et on va squatter quand même. Malgré la haine, on va se battre et on va squatter quand même. Esso. Insécurité, prétexte facile pour réprimer. Contexte docile pour faire passer. Amendement, loi et décret. Ici, une atmosphère tendue, voilà ce qu'il fait. L'insécurité dont il parle, la porte ouverte à tout. Quand en campagne ils partent, la scène un peu partout. Mais on récolte ce qu'on craint quand on crée la psychose. La jeunesse immigrée constamment mis en cause.
Insécurité, insécurité, prétexte facile pour réprimer. Matraqué, contexte docile pour faire passer. Texte docile pour faire passer. Amendement, loi et décret. Ici, une atmosphère tendue, voilà ce qu'il crée. Ici, une atmosphère tendue, voilà ce qu'il crée. Une atmosphère tendue, voilà ce qu'il crée.
insécurité,
insécurité.
Voilà, vous écoutiez la cabine insécurité. C'est à Chaïra, un jeudi sur deux. Donc on se retrouvera en septembre si vous êtes fidèle auditeur. Donc l'émission, on peut l'écouter donc sur 90.1. Vous pouvez nous joindre aussi en appelant au 05 56 50 69 99. Et donc, je vous rappelle que à Chaïra, c'est l'émission du Cercle Libertaire Jean Baruet, et où on peut retrouver ces chroniques, les rendez-vous de l'émission sur le site internet Cercle Libertaire, jb33.free.fr. Voilà, et bien donc on continue l'émission. Avec Laura, donc, qui est prête, et qui a été pendant presque une année, si j'ai bien compris, en Amérique latine, Amérique centrale, bon, peut-être nous expliquer la différence, moi je ne suis pas très bon en géographie. Donc, tu étais là-bas dans quel cadre et dans quel coin exactement? Puis après, on va rentrer dans une des questions en particulier.
Alors en fait, je suis étudiante à Sciences Po Paris, mais j'ai fait mes deux premières années sur le campus de Poitiers, qui est spécialisé sur le monde ibéro-américain, donc Espagne, Portugal, Amérique latine. Et pour notre troisième année, on a l'obligation de faire un séjour à l'étranger. Et la plupart des étudiants partent faire un échange universitaire, sauf que moi, j'avais pas envie de continuer, enfin, j'avais déjà 2 ans d'études, j'avais encore pour au moins 2 ans après, je me suis dit que c'était l'occasion de sortir un peu du cadre. Et donc j'ai voulu faire un stage, voire deux, puisque j'avais appris au cours de ma scolarité l'espagnol et le portugais. Et donc j'en ai profité pour chercher un premier stage autour du thème de l'éducation au Brésil, et un autre je cherchais dans les Andes. Donc ça se joue entre Équateur, Pérou, Bolivie et Chili. J'avais une préférence pour la Bolivie. Sauf que c'est pas évident de trouver un stage à l'étranger depuis la France sans avoir les contacts, etc. Donc j'ai fini par trouver un stage au Pérou, où j'aurais dû a priori travailler des communautés de la forêt amazonienne, des communautés indigènes de la forêt amazonienne. Finalement, une fois sur place, tout s'est compliqué et j'ai pu finir par partir en Bolivie. Donc avant cela, j'étais à Recife, dans le nord-est du Brésil, donc qui est la région la plus pauvre du pays. Et là, j'ai travaillé en fait avec des enfants dans une favela. Mais le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est mon travail, enfin une partie de mon travail en Bolivie, qui a consisté à travailler avec donc le terme officiel, c'est communautés originaires indigènes paysannes des provinces de Sorata et Quillabaya, qui sont situées entre 3 et 6 heures de La Paz, qui est la capitale administrative.
Et la population est en majorité indienne en Bolivie, oui?
Oui, c'est alors les chiffres se recoupent en fait. C'est environ 70% de la population qui s'auto-qualifie recoupée avec des données sociologiques, anthropologiques, etc., d'originaire indigène paysanne. Et on retrouve les données au niveau 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc en général, il y a tendance à la superposition des clivages. En fait, ce sont les mêmes personnes qui vivent en zone rurale, qui n'ont pas accès à la souveraineté et la sécurité alimentaire. C'est-à-dire que ces personnes-là, une grande partie de ces personnes-là vivent avec moins de 1 dollar par jour et n'ont pas de quoi se nourrir correctement, sont en sous-alimentation ou malnutrition. En général, c'est les personnes qui possèdent des caractéristiques qui s'auto-identifient comme... indigènes qu'on retrouve dans ces statistiques-là.
Moi, je pensais que depuis l'arrivée d'Evo Morales au pouvoir, les choses avaient un peu bougé, quoi, hein, notamment vis-à-vis des populations indigènes, puisque lui-même étant issu de ces populations-là.
Exactement. Alors, ça a énormément bougé au niveau juridique et politique. C'est-à-dire que au niveau des ministères, par exemple, on a donc des hommes et des femmes indigènes qu'on voit habillés en costume traditionnel, etc., qui est un des référents, c'est le port du costume. Au niveau de la Constitution, c'est reconnu, que ce soit au niveau... Alors, en théorie, la Constitution garantit l'éducation bilingue, c'est-à-dire en castillan et dans une langue indigène. Il y a 37 ethnies qui sont reconnues hein, au niveau du pays, quand même.
Belle mosaïque.
Ouais, c'est assez... dans les faits, finalement, ça n'a pas tellement bougé que ça. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles... Alors, je ne sais pas si on en a beaucoup parlé en France, il ne me semble pas. Il y a eu des mouvements sociaux très forts ces derniers temps en Bolivie, en particulier en décembre. Et le peuple est très en colère contre Evo Morales. On l'a même associé au président qui l'a précédé. Ça avait provoqué une révolution à l'époque. Hein. Et donc Goni, qui était le premier ministre. On a brûlé des portraits de Morales en disant Morales égale Goni, etc. Et ça a été... sa cote de popularité a chuté vraiment. Puis à un peu tous les niveaux sociaux, hein, parce que j'étais en contact avec des personnes, des classes aisées en zone urbaine, tout comme des personnes vraiment défavorisées en zone rurale. Et vraiment, sa cote de popularité ne fait que de chuter. En particulier, il y a eu ce qu'il appelle le gasolinazo. C'est qu'il a le pétrole, l'essence est subventionnée en fait là-bas. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de l'argent de l'État qui est gaspillé à lutter contre la contrebande. Et donc du coup, il a décidé, complètement arbitrairement, on va dire, d'augmenter le prix du pétrole. Alors ça allait augmenter, je ne sais plus, de 300% à ce moment-là, quelque chose comme ça. Donc ça a été un tollé, la population, notamment la population donc, de El Alto, qui a été à l'origine de son accession au pouvoir, pour faire court, est descendu dans les rues et ça a été un mouvement social très fort associé à des mouvements du personnel de santé et des mineurs qui a provoqué donc le fait qu'il soit revenu sur sa décision, mais malgré cela sa population n'a pas sa cote de popularité n'a pas remonté. Et notamment une des choses qui m'a marqué à La Paz, c'est la très forte présence des graffitis, notamment très ancré dans la politique locale. Et il y avait donc un slogan qui m'a marqué, c'est « Le peuple ne mange pas de jugement ». Donc on reproche à Morales de s'être beaucoup axé sur les jugements des précédents dirigeants politiques, mais de ne pas avoir finalement modifié les conditions de vie du peuple au quotidien, pour faire plus ou moins court.
C'est quoi? C'est le vice du pouvoir, quoi.
Ça peut être perçu comme ça, notamment. Oui. Et il y a eu un petit côté aussi... C'est comme, on va y revenir d'ailleurs, on considère que les problématiques de genre concernent uniquement les femmes, comme on considère que parce qu'il était indigène, il allait modifier radicalement les conditions des populations indigènes. Au niveau juridique, il y a vraiment eu un tournant majeur, sans précédent. Dans les faits, et notamment, il y a des luttes avec la coopération internationale. En fait, c'est des luttes de pouvoir, puisque la Bolivie, jusqu'à il y a peu, était le pays du monde où la coopération internationale était le plus présente. Et donc, le gouvernement a probablement un petit peu modifié certaines statistiques qui ont fait passer la Bolivie au-dessus d'un certain niveau d'IDH. Du coup, il y a un retrait des ONG. Sauf qu'en fait, l'État n'est toujours pas capable d'assumer, dans les faits, les nécessités de la population. Et maintenant, il y a de moins en moins d'ONG, donc on a presque même, dans certains cas, un recul, en fait, de tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est accès à la santé, à l'éducation. Le peuple bolivien, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu au cours des 6 mois, et vraiment, tous les niveaux sociaux est très politisé. N'hésite pas, contrairement à ici, où il y a un niveau de légitimité, on va dire, en dessous d'un certain niveau d'études, les gens considèrent qu'ils n'ont pas de légitimité à avoir une opinion politique. Là-bas, c'est justement depuis l'accès, en particulier, de Morales au pouvoir, ça a bougé. Et donc, les gens se rendent compte qu'ils sont, d'un certain côté, qu'il y a des politiques, il y a une forme de propagande et que les politiques n'atteignent pas... Les marginaux qui restent de plus en plus marginalisés, finalement. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire que le peuple a perdu confiance en lui?
Oui, Ah oui, oui, j'ai, enfin, oui, ça se lit sur les murs, ça s'entend chez les gens au quotidien. Il sera pas réélu hein, si finit son mandat. Parce qu'en plus de ça, il a profité, ouais, il a profité de la nouvelle constitution pour, en gros, pour faire court, enfin, dire que normalement, un président ne peut pas être élu deux fois de suite. Sauf que lui, il a été élu la première fois avant la promulgation de la nouvelle constitution en 2009, donc ça compte pas. Donc, il y a des petits relents de... Voilà.
De Chavez.
Exactement. Exactement.
C'est une contagion.
Et pour revenir justement aux questions d'égalité de genre,
oui.
comment ça se fait, qu'est-ce que tu as constaté à la fois, tu es en situation de lutte?
Alors, j'ai travaillé donc sur, on va dire, deux fronts en particulier, enfin qui sont les deux principaux fronts, je vais y arriver, de l'association donc qui s'appelle le CKSM, voilà, avec laquelle j'ai travaillé. Donc il y a en premier lieu, alors c'est centre de capacitation, en français c'est d'instruction, on va dire, et de service pour les femmes.
D'accord.
Voilà. Sauf que finalement la question du genre c'est une petite, enfin je me suis rendu compte en 6 mois, c'est seulement une petite partie de l'institution, mais on va rester là-dessus aujourd'hui. Il y a une première partie qui concerne les zones urbaines, qui concerne la traite de femmes, qui là-bas est vraiment un phénomène d'une certaine ampleur. Donc la traite de femmes, enfin c'est la traite, c'est le nom moderne pour l'esclavage en fait. Et aussi j'ai travaillé dans les communautés voilà originaires indigènes paysannes à la question notamment des problèmes de droits civiques et de violences faites aux femmes. Donc, alors tout d'abord, enfin les statistiques là-bas, selon des statistiques qui restent très approximatives, ce serait 7 femmes sur 10 en Bolivie qui sont victimes de violences, qu'elles soient psychologiques, physiques ou sexuelles. Dans les faits, je me demande si c'est même pas plus, parce que quand les femmes commencent à parler, on se rend compte qu'elles sont toutes passées par des situations très douloureuses. Donc, je vais commencer d'abord sur la question de l'accès politique. Donc, comme c'est la même chose que les thématiques indigènes, c'est garanti par la Constitution. L'égalité homme-femme est garantie par la Constitution, de la nouvelle Constitution de 2009. Sauf que dans les faits, alors non seulement les femmes ne sont pas au courant de leurs droits, en plus elles quittent l'école très tôt puisqu'on favorise que ce soit l'éducation ou la santé, c'est celle des garçons qui est prioritaire. Donc il y a beaucoup de femmes, enfin comme partout dans le monde, mais voilà, bon, parler du contexte bolivien, qui meurent tous les ans parce qu'on refuse, enfin on considère que les soigner, ça n'est pas prioritaire, dans la mesure où voilà, il y a plein de bouches à nourrir et c'est en priorité celle des garçons dont on va s'occuper. Donc au-delà de ça, les femmes donc sont cantonnées au rôle de reproduction des tâches, le service domestique. Et donc, bien sûr, si on ne les libère pas de la sphère privée, elles ne peuvent pas accéder à la sphère publique. En plus de ça, la première étape de mon travail, avec les personnes avec lesquelles je travaillais, c'était discuter avec les femmes au niveau de la prise, de la participation politique, quels étaient les problèmes qu'elles rencontraient. Et le premier problème, c'était on a peur. On a peur de parler. Parce que les hommes nous agressent verbalement, voire physiquement. Il y a eu des cas donc, de conseillères municipales qui ont été agressées, qui ont reçu des menaces, du chantage sexuel. C'est fréquent. Donc la première étape, ça a été des ateliers de prise de parole en public, en fait, puisque quand elles prennent la parole dans les espaces publics, on les renvoie à leur rôle, une essentialisation du rôle. De la féminité qui consiste à la reproduction des tâches domestiques. Donc retourne en cuisine, tout ça. Donc, et ça a énormément d'impact sur ces femmes-là, puisque donc il y a une énorme naturalisation du fait social. De l'autre côté, au niveau des violences, c'est la même chose, naturalisation du fait social. Une femme qui est violentée et qui va s'en plaindre va être sujet de moquerie là-bas. Ça m'a énormément choquée à la base, parce que c'est ma réaction un peu. Un peu ethnocentriste, il faut l'admettre. Une femme qui plaisante sur ce sujet-là, de mon point de vue, c'était inconcevable. Mais c'est fréquent parce qu'en fait, c'est considéré comme normal. Enfin, on entend des femmes dire « Moi, j'ai de la chance, il me tape que quand il est bourré. » Voilà. Donc, il y a une méconnaissance complète de leur droit. Par exemple, des femmes qui pensent qu'une fois qu'une fille est majeure, forcer une femme avoir des rapports sexuels, c'est légal, ça n'est pas une violence. Ça, je l'ai entendu, enfin, des personnes qui nous ont parlé. Donc il y a eu, voilà, en parallèle, dans différentes communautés, un travail fait sur cette prise de conscience, premièrement, cette dénaturalisation du fait social, sur la diffusion de leurs droits, parce qu'elles ne les connaissent pas. Et sur donc ensuite une analyse très basique de quels sont les différents types de violences, les lieux où elles peuvent avoir des recours, même si c'est encore très marginal. Il arrive encore que la police, ça se passe en France aussi, il ne faut pas se leurrer, hein, mais c'est très fréquent que la police les renvoie chez elles, surtout dans les communautés indigènes où c'est les autorités locales qui décident de tout. Donc comme les autorités locales sont en majorité aux mains des hommes, une femme qui va porter plainte contre un autre homme de la communauté ne sera pas entendue dans la majorité des cas. Donc là, je vais faire une petite parenthèse. Il y a eu quelque chose à double tranchant. La Constitution a mis sur un pied d'égalité la justice traditionnelle et la justice indigène, enfin justice ordinaire et justice indigène. Donc ce qui est une reconnaissance sans précédent dans le monde des institutions indigènes. Cela dit, voilà, d'un autre côté, il y a ce double tranchant qui fait que les femmes là-bas, si elles ont recours à la justice indigène, la plupart du temps, elles ne seront pas entendues, et voire même, ça donnera lieu à une sorte de répression, entre guillemets, sauvage, et à des représailles. Voilà.
Mais c'est ce que tu dis, ça soulève un petit peu la question de comment ces droits ont été acquis. Est-ce qu'ils ont été acquis d'en haut ou d'en bas, quelque part? Et ce que tu dis, on a l'impression que c'est une élite consciente qui a développé des droits pour le bas peuple, quoi. Enfin.
Alors comme beaucoup de féministes, de la troisième génération, ou les féministes dites noires, ont reproché au courant féminisme traditionnel, c'est effectivement que c'est quelque chose de très élitiste. Et d'autre part, en Bolivie, c'est croisé avec le fait, avec la prépondérance de la coopération internationale. En fait, ça a été doublement imposé, entre guillemets, par le haut, puisque ça a été un mouvement donc des ONG en grande partie. Alors d'ailleurs, à ce niveau-là, elles ont un fonctionnement qui est très intéressant et dont je trouve qu'on aurait à apprendre. Il y a un réseau qui s'appelle la Coordinatrice de la Femme, qui rassemble en fait toutes les associations qui travaillent auprès de femmes, donc que ce soit au niveau de l'organisation communautaire, de l'économie, de l'agriculture, ou des ONG qui travaillent, à l'accueil de femmes qui ont subi des violences, à l'aide juridique, sociale, psychologique, au niveau national. Et après, il y a une coordination au niveau national, et ensuite au niveau régional et local. Donc l'air de rien, à ce niveau-là, il y a un mouvement qui est réellement en marche, et qui a un certain impact. Mais c'est très long, parce que finalement, l'État, à part la garantie juridique, n'agit pas. Il y a vraiment un vide à ce niveau-là. Et oui, en effet, on peut dire que ça a été imposé par le haut, même si c'est en train d'être diffusé, mais c'est très long. Et il y a beaucoup de femmes encore qui elles-mêmes considèrent que c'est légitime. Donc qui ne sont pas...
Que la violence est légitime.
Que la violence est légitime, que c'est cette naturalisation du fait social. Parce que, alors là-bas, c'est croisé justement, c'est de même à double tranchant, avec les problématiques indigènes. On revalorise la culture indigène, les traditions, etc. Et alors il y a donc en Aymara ce qu'ils appellent le Chacha Warmi, qui est la vision de dualité homme-femme. Donc alors c'est une vision très idéalisée là-bas, de complémentarité homme-femme, etc. Et moi quand je suis arrivée, je me suis dit, mais c'est merveilleux, c'est ça qu'il faut, puisque les problématiques de genre, mais sans l'imposition parfois ethnocentriste qui existe dans beaucoup d'ONG, surtout les ONG internationales. Sauf que dans les faits, qui dit complémentarité dit dualité, dit différence intrinsèque et essentielle, et dit séparation des tâches et essentialisation des rôles, des attitudes, des désirs et des capacités. Voilà, c'est un peu à double tranchant, et c'est vrai que personnellement, ça a été des problématiques qui m'ont mise un peu... dans une position où c'était difficile, parce que je ne voulais pas non plus arriver « Bonjour, je suis l'Européenne, je vais vous expliquer comment ça devrait se passer, parce que c'est injuste, etc. » Et en même temps, d'un autre côté, il y a ce recoupement des clivages qui fait que les femmes indigènes sont, celles qui sont les plus victimes de violences, de problèmes de santé, du manque d'accès à l'éducation. En même temps, il est difficile d'arriver dans une communauté et de, effectivement de travailler à déconstruire cette naturalisation du fait social sans porter atteinte au tissu social, aux structures sociales de ces populations. Voilà.
C'est compliqué de bouger des pratiques séculaires, c'est très complexe. Alors je sais pas, moi je connais très superficiellement le mouvement féministe en France. Tu en connais peut-être un rayon. Comment ça s'est passé en France, par exemple, pour bouger cette culture patriarcale, parfois violente, ouais, machiste, parfois violente.
Alors, enfin,
tu peux peut-être nous en parler.
Alors, avec plaisir. Mais alors, d'abord, je vais essayer de rester dans une perspective de comparaison. Rapidement. En fait, il y a deux facteurs clés pour moi. Il y a le facteur de la situation postcoloniale là-bas, qui fait que malgré tout, ce qu'on pourra dire, qui continue de constituer un blocage énorme au niveau de tout, de tout ce qui est lié au développement. Et l'absence de sécularisation, c'est des sociétés. Alors justement, il y a toujours lié à la question du postcolonialisme. C'est pas du tout des populations indigènes comme parfois ils appellent non contactées en fait. Est venu se greffer tout un tas de croyances catholiques et finalement toutes les questions aussi du genre ont été perverties par les rôles de genre qui ont été imposés par les colons en fait. Donc ça a vraiment, finalement, ça a compliqué encore plus la tâche, parce que par exemple, tout ce qui est avortement, etc., on ne peut pas dire que ce soit les croyances indigènes qui font que ces populations sont radicalement contre. Qu'elles pratiquent encore, malheureusement, la lapidation contre, éventuellement, c'est pas que dans ces circonstances, mais contre des femmes qui ont pratiqué un avortement. C'est lié parce qu'il y a un énorme terreau judéo-chrétien qui est venu se greffer là-dessus en fait. Alors qu'en France, au moment où les femmes, il y a eu des mouvements de masse en fait à l'époque, notamment pour tout ce qui était l'accès au vote, tout ce qui était tout ce qui est la contraception, l'avortement. Ça a été les femmes elles-mêmes. Alors après, on peut toujours dire que ça a été un mouvement bourgeois, etc. Sauf que ça n'a pas été aussi exogène que ça peut l'être, par exemple, de mon point de vue, en Bolivie. Voilà, ça a été un mouvement qui a suivi en fait les évolutions socio-économiques. Alors que là-bas, en fait, il y a une sorte de discrépance. Quand je me fais à parler de là-bas, je pense en espagnol. Il y a un fossé en fait entre les structures politiques, entre les visions qui sont parfois imposées par les ONG internationales. Enfin, par exemple, on a vu des ONG internationales leur imposer des toilettes modernes qu'ils n'utilisent pas, donc c'est de l'argent complètement gaspillé. Enfin, pour eux, c'est un éléphant blanc au milieu de la campagne. Donc voilà, c'est un exemple. Et qui, en plus, leur donne une image très négative d'elle-même, en fait, parce que c'est une manière de leur dire qu'ils ont des mauvaises pratiques d'hygiène, etc. Et donc, au niveau du genre, on peut retrouver, pour faire simple, les mêmes structures, les mêmes problématiques.
Est-ce que tu peux soit il y a d'autres questions, soit on peut donner des éléments aux auditeurs qui veulent en savoir plus, t'as des ouvrages ou des trucs comme ça qui peuvent intéresser, ou des sites internet, ou des quoi tu penserais?
Alors là je suis actuellement en train de lire un livre, alors j'hésite à en faire la promotion parce qu'en même temps il y a un côté assez misérabiliste et spectaculaire. C'est des journalistes en fait qui l'ont écrit, des journalistes américains, donc en plus c'est assez critiquable. Sauf que il y a quand même des statistiques qui sont très intéressantes au niveau notamment de la traite, alors pas que des femmes. Par exemple, on estime, ça c'est des statistiques de l'OMS, qu'il y a entre, alors je crois que c'est 13 et 27 millions d'esclaves modernes à travers le monde. C'est pas négligeable. Ça s'appelle La moitié du ciel.
À quelle destination, non, il...
Pardon. Y a une grande partie, c'est des femmes qui sont destinées au bordel, pour être cru. En Bolivie, c'est une problématique qui est très... Alors, à El Alto, en fait, c'est la ville qui jouxte La Paz, qui est en fait majoritairement composée de personnes issues de l'exode rural, donc des populations indigènes, donc des personnes pauvres, voilà, pour les personnes en difficulté, voilà. Et marginalisés toujours au niveau de l'infrastructure, etc. À ce niveau-là, il y a alors plus de 70% des femmes, des jeunes filles entre 13 et 25 ans, à qui on aurait fait des propositions qui relèvent probablement de propositions, des offres qui sont en réalité sont des offres déguisées de traite, en fait, de réseaux de traite. Alors après, oui, j'ai des ouvrages à conseiller, sauf que la plupart sont en espagnol. Pour les personnes qui parlent espagnol, l'ONG dans laquelle j'ai travaillé, c'est la référence nationale en matière de traite des femmes.
D'accord.
Donc elle a publié un livre sur les méthodes de la traite en Bolivie. Je ne sais pas si éventuellement l'émission a un site, je pourrais y réfléchir après. Parce que là, brûle pour point, je pense avoir des choses à conseiller.
On va se faire une petite pause musicale. Mais ça y est, j'ai oublié sur quelle piste c'était. C'est la piste verte. Voilà. C'est parti.
Cuando yo era niño de ti me enamoré y desde este momento en ti yo solo pensé. Crecía pensando en este día que tú conmigo vendrías a vivir la vida mía. Pero después te fuiste a otro país, bebé, y yo no sabía ni a dónde escribir. Ahora juntos de nuevo no me dejes así con el corazón ardiendo, no me dejes, mami. Yo quiero amor pa' mí, amor pa' mí. Todo lo que yo quiero es amor pa' mí. Amor pa' ti, mami, amor pa' ti. Todo lo que yo tengo es amor pa' ti. Amor pa' mí, amor pa' mí. Todo lo que yo quiero es amor pa' mí. Amor pa' ti, mami, amor pa' ti. Todo lo que yo tengo es amor pa' ti. Yo voy libre corazón, el sarreto viene pregonando. Libre corazón, boom, te lo digo, mami. Libre corazón y todo el mundo tiene que ir. Libre corazón para acabar con el odio. Libre corazón pa' que tiren armas al fuego. Libre corazón, boom, te lo digo, mami. Libre corazón, el sargento viene pregonando. Libre corazón, yo ya sé lo que digo, te lo tienes bien sabido. En nombre a libertad del militar mata a su hermano. Libertad del militar mata a su hermano. El derecho de ser humano es de ser un gusano, que por más pájaro que él tendrá que ser comido. Yo ya voy, yo ya sé, yo ya quiero. Amor pa' mí, amor pa' mí. Todo lo que yo quiero es amor pa' mí. Amor pa' ti, mami, amor pa' ti. Todo lo que yo tengo es amor pa' ti. Amor pa' mí, amor pa' mí. Todo lo que yo quiero es amor pa' mí. Thank you.
Eh oui, c'était
Sergent Garcia.
Sergent Garcia, Fuerza.
Un morceau extraordinaire, tiré d'un vieil album d'ailleurs.
Oui, en temps rien.
Sergent Garcia qui est le chanteur, enfin un des le chanteur de Sergent Garcia et le chanteur de Ludwig von 88.
C'est ça.
C'est encore plus vieux.
Oui,
c'est encore plus vieux. Ah oui, c'est à Ludwig, oui.
Et donc là, c'était le chanteur.
Très bon souvenir.
Et un super morceau justement où il mélange. Moi, c'est ça que j'aime chez eux, c'est qu'ils vont te mélanger les problèmes mondiaux, les problèmes, par exemple ici, l'armée, la police, la violence et tout ça. Et en même temps, ils ramènent ça aux gens, quoi, à ce qui leur touche. On dit « amor pa mi », c'est « je veux de l'amour pour moi et pour toi, mamie », tu vois. Et donc, j'adore ce mélange, quoi. Et donc, c'est pour ça, Sergent Garcia, c'est pour moi.
Tu as un énorme avantage, tu parles espagnol.
Oui. J'avoue que c'est un grand avantage. Non, c'est ça, je crois que c'est ce qu'il faut dire aux immigrés, quoi. C'est qu'on est riche, les immigrés.
Ah, oui,
parce qu'on a deux cultures. Enfin, il y en a qui en ont trois, mais moi j'en ai deux. Et c'est génial, quoi. Je suis espagnol, mais je suis aussi français.
C'est indéniable.
Voilà.
Alors, mais donc, cette critique de disque, eh bien, c'était sur Achaïra, 90.1. Donc, je vous rappelle... comment nous joindre au 05 56 50 69 99. On est ensemble jusqu'à 23h. Et donc, eh bien, on va vous aborder ensemble maintenant, vous donner envie de comprendre et de vous révolter sur la situation économique. En tout cas, c'est le pari de Christophe et Mika. Allez.
Ah, tout à fait, oui, c'est un pari, oui. Donc, ben, comme nous le disions avec Christophe à l'instant, voilà, on va vous présenter quelque chose de manière tout à fait humble. Hein. Nous ne sommes pas des professionnels, bien sûr, de l'économie ou de la finance, loin de là. Mais on a pris le parti, en fait, de nous intéresser, de décortiquer un peu ce qui est en train de se passer. Et dans la finance, dans l'économie, et qui impacte inévitablement nos vies à tous, au quotidien. Voilà. Donc ce que l'on va essayer de faire, dans un premier temps, on va vous faire un petit bilan, un petit constat peut-être de la situation économique, financière, politique. Et dans un deuxième temps...
quelques propositions économistes.
Voilà, qui courent un peu sur les blogs. Voilà, donc je vais commencer sur le constat. Donc je vais peut-être partir d'une affirmation. C'est peut-être un peu prétentieux, mais il me semble que la crise actuelle plonge ses racines en fait dans l'accaparement des richesses. Effectivement, on le voit notamment avec les fonds de pension, les hedge funds, les grands patrons aussi, qui en demandent toujours plus, hein, qui demandent toujours plus de rendement pour leurs actions, toujours plus de rendement pour les entreprises, l'industrie, etc. Et tout ça pour engraisser.
D'ailleurs,
toujours.
Oui. Mickey, on parle, on annonce des chiffres, enfin le rendement maintenant c'est entre 15 et 25%.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est
toujours plus quelquefois, mais c'est la fourchette, quoi.
C'est assez énorme. C'est assez énorme. Hein. Et cette,
donc ça implique, voilà.
Cette cupidité, en fait, entraîne en fait une compression de la masse salariale, hein, notamment dans les pays occidentaux. Hein, je parle même pas des pays en voie de développement où là ils subissent sûrement l'exploitation que les ouvriers du vieux continent ont subi au 19e siècle. Mais en Occident, indéniablement, on assiste à une compression de la masse salariale, et donc une paupérisation du prolétariat, hein, tout simplement, quoi. Et pour maintenir, en fait, voire même augmenter la consommation qui est au fond le moteur de l'économie occidentale, hein, on fait appel au crédit tel le crédit revolving, le crédit à consommation, et les surprimes. les surprimes qui ont été au cœur de la tempête financière. Hein. Les surprimes, il faut savoir qu'aux États-Unis, hein, c'est la clé de voûte hein, en fait, du système de consommation. Alors pourquoi la clé de voûte du système de consommation? Il faut savoir qu'aux États-Unis, le bien immobilier que vous possédez, en fait, c'est une garantie pour obtenir plus de crédit. Encore toujours plus de crédit pour consommer. Voilà. Votre maison, voilà, vous obtenez des crédits, vous l'hypothéquez en fait. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Il faut savoir aussi que quand il a été mené en fait aux États-Unis entre 2003 et 2005 par Greenspan, l'ancien responsable de la Fed, la banque centrale américaine, il a été mené une politique très très accommodante sur la diffusion de prêts. Alors ça s'est présenté sous quelle forme? En fait sur des taux directeurs en fait très bas, proches de zéro. Et ça a eu pour effet en fait de généraliser en fait le crédit, dont les surprimes dont on vient de parler. Et ça a eu un effet aussi très pernicieux, ça a augmenté l'inflation. Ça a fait augmenter l'inflation. Sur ces faits-là, Greenspan a dû augmenter ses taux directeurs. Hein. Il a abandonné sa politique que j'appelais très accommodante, sa politique monétaire très accommodante. Donc il a augmenté à ce moment-là les taux directeurs, ce qui a entraîné en fait la faillite des ménages qui se retrouvaient avec des surprimes, c'était ces produits financiers très complexes, en fait, où leur taux d'intérêt, en fait, des intérêts, ont monté en flèche. Et ils se sont retrouvés avec des mensualités qu'ils ne pouvaient plus payer. Plus payer à cause de cette politique de la Fed.
Ce qui entra... Juste rajouter oui. Que ces prêts, en fait, ont été accordés sans aucun contrôle. Hein.
C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais,
Donc en fait, ils ont ouvert le robinet du crédit et puis... allez-y, on vous prête l'argent, servez-vous, il y en aura pour tout le monde. Mais bon, voilà, sans contrôle.
C'était quasiment du no limit, quoi.
Ouais, no limit.
Ouais, c'est ça. Donc ce qui s'est produit, comme je le disais, ça a été une faillite des ménages hein, à cause de ces surprimes, qui se sont fait déposséder littéralement de leur maison par les banques qui possédaient indirectement ces banques, ces maisons. Et ce qui a provoqué en fait l'effondrement de l'immobilier aux États-Unis, l'effondrement des banques hein, qui se sont elles retrouvées à leur tour avec des maisons qui ne valaient quasiment plus rien et qui se sont retrouvées en faillite totale quoi. Hein. Alors le plus bel exemple hein, c'est Lehman Brothers, hein, voilà qui en fait a révélé l'ampleur de la crise. Qui a révélé au monde l'ampleur de la crise en 2008, hein, en août 2008. Tout ceci, en fait, en quelque sorte, c'est le grain de sable hein, qui a fait
cette bulle immobilière.
Ça a fait dérailler la machine. Voilà, tout à fait. Oui.
Et on n'envoie pas la police contre ces gens-là?
Bonne question.
Bonne question, alors que fait la police?
il faut savoir que pour l'affaire Enron, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Enron aux États-Unis, c'est une grande société. Alors Enron, c'est une société pétrolière, non? Enron.
C'est un fonds de pension.
C'est un fonds de pension. Excusez-moi. Un fonds de pension non, qui avait magouillé et ces gens-là ont été poursuivis, ils ont eu de gros soucis avec la justice, ils ont payé par des années de prison, etc. Quoi. Aujourd'hui, les banques, les grands responsables des banques américaines ne sont nullement inquiétés. On peut se poser quand même de sérieuses questions.
Hein. Ni poursuite, ni sanction, plutôt aidés même.
Goldman Sachs,
à flot.
Goldman Sachs, la grande banque américaine qui a aidé la Grèce à maquiller ses comptes, les responsables ne sont nullement inquiétés aujourd'hui chez Goldman Sachs. Bon voilà, puis on pourrait, on pourrait...
Mais de toute manière, les États-Unis, ça n'existe plus. J'ai entendu qu'ils étaient endettés à 100%. Ça n'existe, ils ne s'appartiennent plus à eux.
Les États-Unis sont en faillite.
Ils sont déjà en faillite.
Ils appartiennent aux Chinois.
Ben, je sais pas, oui. Sauf que si, effectivement, ils veulent réclamer leur dû, ça ne vaut plus rien. Donc, plus rien à porter.
Tout à fait. Donc, j'en étais à la faillite du secteur financier qui a causé cette première récession, en fait, hein, où le système financier s'est grippé. Et alors là, est arrivé les États. Zorro, me dit mon voisin de gauche.
Je vais arrêter de l'embêter.
C'est déjà pas facile pour moi, alors là, si tu me mets les bâtons dans les roues. Non, là, sur son cheval blanc est arrivé l'État, sur son grand cheval blanc, qui a endossé les dettes du secteur privé, hein, généreusement, hein, à grands coups de, centaines de milliards.
Ouais. Hein. Alors, ce qui est assez rigolo quand même, c'est que c'est le secteur financier et bancaire qui rejette l'État, mais qui est bien content quand même quand l'État les sauve. Quoi.
Donc c'est... Ce qui est moins rigolo, c'est que ça sort de notre poche.
Et ça sort de la poche de l'historien.
Tout à fait.
L'historien américain, en l'occurrence, dans le cas.
Et tout à l'heure, Christophe, tu me citais un chiffre assez hallucinant de Bloomberg.
Oui, alors d'après l'agence Bloomberg, entre le 11 juillet. Bon, je vais retrouver le chiffre, je dois l'avoir là. Oui, c'est entre le 11 juillet et en l'espace d'un mois, je pense, hein, oui, c'est 7000 milliards de dollars qui sont partis en fumée sur les marchés financiers mondiaux.
Ouais. Et le pauvre Gainsbourg, il doit se retourner dans sa tombe.
Donc 7000 milliards de dollars en quelques semaines. Quoi. Bon, c'est astronomique, mais c'est une pure folie, quoi.
C'est ça, je crois que c'est le mot.
Ouais, c'est assez parlant comme
c'est
chiffre.
C'était virtuel, non?
Mais t'es pas loin du compte. Hein. Tu es pas loin du compte. Ouais.
C'est pas complètement. Ouais, c'est faux. Hein, c'est...
Ah, mais c'est complètement déconnecté.
C'est déconnecté, voilà.
Économique, en fait.
Ce n'est absolument pas de l'économie réelle, comme on dit. Hein.
Donc, en partant en fait de la cupidité d'une poignée de personnes, hein, sur la planète, hein, c'est ce que je disais au départ là, de mon analyse. Hein. On arrive là, à ce niveau-là, où on se retrouve dans un état de faillite généralisé, quoi, hein, parce qu'il y a une poignée de personnes qui n'ont pas voulu partager la majorité
de l'argent. Si je peux me permettre une toute petite intervention, ça m'évoque une citation de Gandhi que je trouve vraiment de circonstance, qui disait que la Terre pouvait subvenir aux besoins de l'ensemble de la population de la planète, mais pas satisfaire la cupidité de Kaza, en fait. Et c'est vraiment, enfin là, on est vraiment...
Oui, ça correspond tout à fait. Mais alors, on peut s'interroger quand même sur l'état psychologique de ces gens, parce que cette volonté de s'accaparer... Moi, personnellement, ça devient de la psychopathologie. Enfin,
oui, mais quand tu regardes à la télévision, quand tu vois l'éducation...
En fait, c'est l'argent pour l'argent, s'accaparer.
C'est celui qui est riche, il est bien.
C'est l'image qui est véhiculée, voilà, c'est l'image complètement trompeuse qui est véhiculée.
Et puis en plus, t'as qu'à voir les derniers feuilletons américains, c'est les plus mafieux, les plus pourris, ceux qui gagnent, c'est ceux qui sont bien et tout. Plus tu escroques les autres, plus t'es bien. Alors ben, les jeunes ici, ben, c'est pareil ou ailleurs, faut faire.
Non mais en plus on est dans une logique de plus en plus individualiste où en gros, la logique, mais même chez les jeunes, quoi, c'est de toute façon si c'est pas moi, c'est pas moi qui en profite, ça sera un autre, donc autant que ça soit moi, quoi. Et de toute façon, cette espèce de vision que pour fonctionner, le monde doit avoir des dominants et des dominés, en fait. Hein,
c'est le fameux darwinisme social. Décrit par les libertariens, hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette race de...
libertaires,
en tout cas, ce sont des personnes, effectivement, qui veulent l'abolition totale de l'État, mais...
Nous aussi, mais
c'est pas pour les mêmes raisons, n'est-ce pas
pour rester sur le plan philosophique et puis des idées, ouais. Et en fait, c'est en 30 ans, les néolibéraux ont gagné la bataille des idées. Hein.
Ah, totalement, ouais. C'est Thatcher, Reagan. Ce sont alors, deux dirigeants politiques qui ont été inspirés par von Hayek.
De Thatcher et de Reagan. Ouais.
C'est vraiment une lutte idéologique qui a été gagnée, mais bon, ils ont gagné une bataille, pas la guerre, quoi.
Ce qui est malheureux à constater, c'est qu'actuellement, il y a les intellectuels, pour moi, sont, enfin, ils jouent pas leur, ils remplacent pas leur rôle, quoi. Mm-hmm. Il n'y a pas de combat d'idées.
C'est vrai qu'on n'est pas dans l'ébullition d'idées qu'il y a eu au 19e siècle avec toutes les grandes idéologies marxistes, anarchistes, social-démocrates.
Le problème, c'est que on a l'impression que les idées sont mises, comme dans un hôtel, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Les idées, tout le monde a le droit de voir ses idées, etc., etc. On peut pas attaquer les idées. C'est comme, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde. Alors que moi, je trouve que les idées sont critiquables. On peut insulter des idées. On peut dire à quelqu'un, tes idées, c'est de la merde. Mm-hmm. Hein? Par contre, il faut respecter la personne.
Oui, mais moi, enfin.
Et je trouve que c'est.
T'es sur une ligne bakounienne, là.
Mais il n'y a pas de.
Je sais pas, mais moi, je dis ça. Moi, je peux critiquer quelqu'un en face en disant ses idées, mais je le respecte, je ne ferai jamais de mal. Mm-hmm. Et au nom des idées, au nom de toutes les idées au monde, on massacre.
Eh bien oui, parce que savoir, c'est pouvoir. Enfin, c'est l'idée de Foucault, quoi, que savoir et pouvoir sont intrinsèquement liés. Mm-hmm. Donc, le fait est que les personnes qui détiennent le pouvoir aujourd'hui détiennent aussi les médias et donc contrôlent fabriquent l'opinion publique. Mm. Donc, effectivement, c'est toute la question de créer une contre-hégémonie culturelle et...
Voilà. La fabrique de l'opinion et la fabrique du consentement aussi.
Mais c'est là où la gauche, l'extrême gauche a beaucoup de mal, hein. C'est créer un contre-pouvoir à médiatique, quoi. Parce qu'aujourd'hui, tu te rends compte que les médias sont possédés par des grands trusts, voilà, quoi. Et le problème, il est là, quoi. Il est là, il est financier.
Utiliser notamment tout ce qui est notamment par internet, c'est ce qu'on disait avant de commencer l'émission.
Je crois que c'est un bel outil.
Peut être effectivement un outil c'est vrai que si on cherche, il y a aussi qui contribuent, qui pourraient contribuer s'ils étaient plus diffusés à cette hégémonie.
Il y a la clé des ondes aussi.
C'est vrai.
Noam Chomsky explique très bien ces phénomènes de. Des mass médias.
Je suis épaté. Foucault, Noam Chomsky.
Il y a du lourd ce soir.
Je vais revenir, moi.
Mais à contrario, moi, je pense que on manque pas d'idées. Je veux dire, les idées qui ont été faites,
produites, les idées sont là.
La question aujourd'hui, c'est peut-être justement de trop complexifier pour passer à l'action, quoi, quelque part.
Ouais.
Et justement, là, je trouvais intéressant, j'ai lu le journal Fakir, où il y a, Ruffin, je ne me rappelle jamais son prénom, celui qui a fait les petits soldats du journalisme, et qui critiquait le programme de la gauche en disant qu'ils avaient ciblé le cœur, ils avaient abandonné la classe ouvrière.
Ah ouais,
c'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, on parle des riches, mais si jamais il y a cette crise économique, c'est effectivement, il y a des gens qui ont des difficultés pour trouver des logements, on en parlera tout à l'heure dans les rendez-vous, il y a des gens qui ont des difficultés pour manger, on parle effectivement des Roms qui viennent ici parce que les poubelles de France sont bien plus riches que les poubelles de Roumanie.
Et
on doit revenir aussi à ces fondamentaux, les questions basiques de la lutte de classe, comment on accède, ce que tu disais, quoi, aux besoins.
Je pose une question, est-ce que la gauche s'adresse aux ouvriers?
Objectivement, non.
On peut dire que non.
Mais non, voilà.
Est-ce que c'est leur parler?
Mais non, son but, c'est de prendre le pouvoir. C'est d'avoir le pouvoir.
C'est une classe sociale qui a été, qui est zappée.
Pas que les ouvriers,
pas que les ouvriers
tout. C'est parce qu'il y a aussi prolétarisation du secteur tertiaire. Tout le salariat.
De toute manière,
ils ont misé sur le tertiaire, mais le tertiaire, c'est du prolétariat.
Le tertiaire aujourd'hui est industrialisé.
Sauf que le Parti Socialiste, notamment, ne s'adresse pas du tout à ces personnes-là, que ce soit les ouvriers ou on peut dire les ouvriers du secteur tertiaire. Enfin, c'est une coquille vide en fait. Hein. Ils se sont complètement alignés sur le capitalisme avec des slogans un peu différents. Et voilà.
Par contre, Fernando disait, ils veulent s'emparer du pouvoir. Enfin, les sociodémocrates veulent s'emparer du pouvoir, mais ça fait combien d'années qu'ils courent après le pouvoir? Il faut qu'ils se posent les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'ils ont perdu des élections? Et pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à regagner les élections? C'est parce qu'ils ne mènent pas une politique de gauche, quoi. Et c'est tout. Le problème, il est là, quoi.
Ouais, ils avaient quand même réussi à prendre le FMI.
Mitterrand l'a énormément privatisé et je pense que ça a contribué, pour revenir un peu à ce qu'on disait avant, quoi, discréditer complètement.
C'est exactement ce que je te disais avant de venir à la mission. Voilà, tu reprends la Mitterrand. Il s'est converti.
Bérégovoy, je pense que c'est un des hommes politiques en France qui a le plus débridé la finance. En France, quoi.
On se rappelle Yves Montand qui, à la télévision, qui nous faisait cette émission C'est la crise, qui vantait la crise économique comme élément de transformation, justement, de la société sur la télévision socialiste.
J'étais trop jeune, moi.
Oui, bon, c'était une autre époque. Mais... on se met
un petit morceau un aussi, parce que moi je suis un vieux de la clé des ondes et puis. Et je me suis rappelé des morceaux qu'on passait avant. Et donc là, on a programmé un petit morceau de Firmin Muguruza, qui était donc le chanteur de Cortatu, et puis après de Negugoriak.
Les Basques.
Et donc là, excellent, écoutez ça, c'est vraiment très très bon.
Check. occhi fuochi d'incendi su Belgrado e tu senti ringare la conferma vicino che sei seduta ancora al posto più lontano e sicuro. La vita è sonnolenza, telecomandata in doppia, non importa, alza, cambia. Un mondo curvo un giorno tra la gente del terzo millennio esco, perché ti sto sogando, cercando un punto fisso dentro te. E ti domandi, vuoi capire perché il vento soffre un po' che ha già preso tutto.